David va s'appliquer à vouloir ramener l'arche de l'Éternel qui représente bien sûr la présence de Dieu à Jérusalem. C'est un homme qui a le souci de la présence de Dieu. Il est roi, une des premières choses qu'il fait, et il faut ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. La première fois, il s'y est mal pris, pourtant ça partait de très bonnes intentions. Et dans 1 Chronique, au chapitre 15 et au verset 25, c'est la deuxième entreprise. Il a cherché Dieu, et c'est ce que nous verrons certainement si nous en avons le temps. Comment cherchons-nous la présence de Dieu corporativement et individuellement? Dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 25, ils sont ensemble, regardez, David, les anciens d'Israël, et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Quand on obéit, mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'on peut se réjouir. Se réjouir sans obéir, ça ne tient pas debout. Regardez bien le verset 26. C'est ça qui nous préoccupe. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Amen. Ce fut avec l'assistance de Dieu. David, les anciens, les chefs ont tous été d'accord parce que c'est ce qui devrait nous mettre tous d'accord, que la présence de Dieu soit au milieu de nous. Alors quelqu'un pourrait se lever et dire, mais monsieur Gault, Jésus a promis que lorsque deux ou trois de ses enfants seraient assemblés en son nom, il serait au milieu de nous. Oui, et c'est vrai que le Seigneur est au milieu de nous. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu des avertissements qui nous montrent que Dieu peut ne pas agir. Même s'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous et il sait très bien dans quel état de cœur vous êtes, dans quel état vous êtes venu. Nous parlions avant de commencer le culte, puisqu'on a toujours un moment de prière pour attendre ce qui arrive. Nous parlions du fait que où nous cherchons la bénédiction, parce que nous avons envie d'être bénis, le confort, c'est pas plus mal. Où nous cherchons vraiment la présence de Dieu? Mes frères et sœurs, je vais vous poser des questions, je vous demande d'y répondre ou de ne pas répondre. En tous les cas, de répondre au Seigneur. Je n'ai pas besoin d'entendre votre voix. Est-ce que pour vous, tout faire pour que l'Église soit assistée du Saint-Esprit est important? Je voudrais que nous lisions un autre texte, nous allons en lire plusieurs. Notez-les, je vous demande de les noter. Pourquoi? Parce que moi je sais que c'est comme ça que je fais, j'ai besoin de les noter. Quand M. Ferris est venu, j'ai noté les textes. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de... Et je vous assure que Dieu m'a parlé. Quand après j'ai relu certains textes, j'ai compris. Encore mieux, pourtant je connais les textes qu'il a lus, vous savez. Éphésiens chapitre 2, au verset 8, 9 et 10... Il y a un résumé de ce qu'est la grâce, pourquoi Dieu nous a sauvés par grâce, dans quel but. Ce sont des versets connus que nous utilisons pour amener les gens à la conversion, pour expliquer ce qui se passe une fois que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière ou d'une dénomination morte à la vie de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Ça, c'est la part de Dieu, 99%. Par le moyen de la foi, ça, c'est la part de l'homme. La conjonction de deux provoque le salut. S'il n'y a pas le petit pourcentage, il n'y aura pas de salut. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez bien le verset 10, frères et sœurs. Regardez-le bien. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous pouvez tous dire, si vous êtes d'accord, Amen. Nous avons été sauvés, nous sommes devenus son ouvrage comme un vase, et à partir de ce moment-là, cet ouvrage qui va se purifier, car les vases dans la maison du Seigneur doivent être purs, les vases impurs ne sont pas utilisables, à partir de ce moment-là, il y a des œuvres que Dieu a préparées. Donc, dans cette assemblée où nous sommes, frères, sœurs, anciens, responsables, évêques, pasteurs, etc., nous devons savoir ce que le Saint-Esprit prépare, à préparer. Alors j'aimerais que nous lisions un autre texte dans le livre des Actes. L'Église était... Regardez comment était l'Église, je ne vous le dis pas, parce que ce serait bien que vous regardiez peut-être chez vous ce qu'était en train de vivre l'Église. Parce que quel que soit ce que l'on vive, ce n'est pas important d'être dans la bénédiction ou dans l'épreuve. Vous allez me dire, mais quand même, oui, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Notre sœur rappelait un don spirituel, une parole de Jérémie, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous avez écouté la dernière prophétie. Vous savez où est Jérémie quand il reçoit cette parole de Dieu ? Il est encore, c'est écrit comme ça, il était encore enfermé dans la prison. Est-ce que Jérémie était en communion avec Dieu ? Et comment ? Je sais que nous aimons le confort, mais qu'est-ce que c'est qui vaut mieux ? Le confort ou l'opprobre de Christ en étant dans la volonté du Seigneur ? L'idéal, c'est les deux. Alors regardez bien, dans Acte 9, verset 31, je voudrais que vous utilisiez ce verset dans vos cultes personnels pour que nous nous appliquions vraiment, vraiment, à vivre cela. Comme David, avec les anciens, les chefs, se sont associés pour ramener l'arche de Jérusalem. L'œuvre de Dieu, c'est vrai qu'elle commence par l'un, par deux. Dieu cherche un homme. Moi, il y a des versets que j'ai notés ensemble parce que j'en avais besoin pour des réunions. Quand Dieu dit, je cherche un homme et je trouve personne. On le voit souvent, on le voit plusieurs fois. On le voit plusieurs fois, c'est dit de façon différente. Personne qui prophétise, c'est-à-dire personne qui amène la pensée de Dieu. Il y en avait des prédicateurs. Je vous l'ai déjà dit, apporter la parole, vous savez, au bout de quelque temps, c'est facile. Mais la pensée du Seigneur, personne qui prophétise. Je regardais personne pour me secourir. Alors on pourrait dire, mais Dieu a besoin de quelqu'un ? Eh bien oui, Dieu a besoin d'une église. Acte 9, 31. Regardez ce verset s'il résume bien la vision qu'une église pourrait développer. Avec beaucoup de cœur, pour construire ce que Dieu veut que nous construisions. Acte 9, 31, bon, je vous le dis pour vous faire avancer, ils étaient dans la persécution. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Occitanie, pardon, s'édifiant et marchant, dans la crainte du Seigneur. Virgule. Résultat. Elle s'accroissait. Comment ? Par l'organisation des responsables. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église était en paix. C'était pas évident. Il traversait des moments difficiles, je parlais de Jérémie qui était encore enfermé, mais Dieu était avec lui. Donc mes frères et sœurs, je sais que nous sommes aspirés par le confort, et béni soit Dieu si vous y êtes. Mais béni soit Dieu, surtout si vous êtes dans la volonté de Dieu. L'Église était en paix, il n'y a rien de plus beau quand nous sommes en paix les uns avec les autres. Parce que quand même le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Qu'est-ce qui est ajouté après ? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il provoque ces choses. Mes frères et sœurs, vous savez que je suis à un tournant de mon ministère. C'est des combats que je mène, je veux bien les vivre, ces combats. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Moi, je ne suis pas du genre à faire cavalier seul. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que vous le réalisez que nous avons besoin les uns des autres ? Vous avez vu le nombre de fois veiller les uns sur les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ? Et si j'étais maladroit dans ma façon de dire les choses, je vous assure, reprenez-moi. Même devant tout le monde, ça m'est égal. Mais je voudrais nous poser des questions pour qu'on comprenne bien qu'il y a des œuvres préparées à l'avance. Est-ce que vous comprenez ? Quelle grâce ! Dans un monde perdu, tourmenté, enténébré, qui va droit vers la colère de Dieu. Vous le savez, si vous êtes nouveau, lisez la Bible et vous verrez que je ne dis pas n'importe quoi. Le monde va subir la colère divine parce qu'il ne veut pas de la grâce. Nous, nous voulons de la grâce. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai été sauvé par grâce et je sais de toute façon que je ne pourrai faire les choses que par la grâce du Seigneur. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Rien. Ça ne peut pas être plus clair. Il nous faut la présence de Jésus. La présence de Jésus, elle est expliquée clairement par Jésus lui-même. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est partout sur la terre. Sa puissance n'a pas de limite. Que son nom soit béni. Et nous devons prier comme mardi nous prions. Je sais que Michael priait de tout son cœur mardi en disant « Mais Seigneur, mais illumine les yeux de notre cœur. » Vous croyez que c'est une prière qu'on peut faire ? Illumine, que je sache si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que ça peut arriver d'être sur une mauvaise voie ? Mais bien sûr, nous ne jouons pas les supraspirituels. Et lorsque David, après son premier échec, il a voulu ramener la gloire de Dieu, la présence de Dieu, vous savez ce qui s'est passé, ça a été terrible, pendant 3 mois, il a réfléchi. C'est ce dans quoi nous sommes dans une période où nous voulons vraiment que l'Église de Jésus-Christ soit l'Église. Amen. Qu'est-ce que nous voulons? Que l'Église soit comme nous on veut ou comme Dieu veut. Nous voulons bâtir, construire, édifier dans l'état de cœur que Dieu nous demande. Parce que je crois que quand il est dit que l'Église était en paix, qu'elle s'édifiait dans la crainte du Seigneur, ce saint respect, est-ce que c'est important pour vous lorsque vous entrez dans l'Église, pas que dans l'Église, mais à plus forte raison, d'avoir du respect les uns vis-à-vis des autres, le respect des frères, des sœurs, le respect du lieu? Car ce lieu devient la maison du Seigneur. Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison du Seigneur. Et nous sommes là, nous sommes venus ce matin, nous avons besoin de louer, nous avons besoin de communion fraternelle, nous avons besoin de donner aussi nos offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu, etc. Mais nous devons quand même nous poser certaines questions. Lorsque Jésus adresse la prophétie qui est sous forme de parabole, qui est la parabole des 10 vierges, nous avons dans cette parabole un enseignement terrible, à savoir que sur ces 10 femmes qui représentent l'Église et qui attendent le retour et qui vont à la rencontre, il y en a pourtant 5 qui ne sont pas prêtes. Oui ou non? Elles attendent, je le dis, c'est des vrais pentecôtistes. Elles attendent le retour du maître. Je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de dénominations qui ne parlent, ils n'y croient même pas à l'enlèvement de l'Église. Là, nous sommes dans des églises, il y a des églises apostoliques, des églises évangéliques, ou comme les nôtres, qui vraiment attendent l'enlèvement. Nous en parlons souvent et nous devrions parler souvent au fur et à mesure que l'événement s'approche, bien entendu. Elles ne sont pas prêtes. C'est pour ça que Jésus dit qu'elles sont folles. Nous n'oserions pas nous dire qu'elles sont folles. Mais Jésus dit qu'elles sont folles parce que c'est de la folie de croire qu'on est prêt parce qu'on l'attend et qu'on n'a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, il y a de la négligence. Moi, franchement, je me connais, on m'aurait dit, voilà, comment elles sont ces femmes, je ne connaîtrais pas la parabole, on m'aurait dit, mais comment elles sont ces femmes, elles n'ont pas d'huile. Je n'aurais pas dit qu'elles étaient folles. Moi, je n'aurais jamais dit qu'elles étaient folles. Moi, j'aurais dit qu'elles étaient négligentes. Vous voyez, elles ont négligé. Vous voyez ce que je veux dire? Si on m'avait dit, voilà, comment vous les cataloguez, vous, ces femmes? Mais Jésus, bien sûr, qui lui est parfait et qui sait ce qu'il doit nous dire, bien sûr qu'il y a de la négligence, mais ce n'est pas que de la négligence, c'est de la folie. Quand on n'a pas d'huile, c'est-à-dire quand on n'a pas la vie de l'esprit, c'est de la folie que de vouloir croire qu'on est prêt, qu'on pourra faire les œuvres, qu'on pourra rentrer dans les œuvres préparées à l'avance. Vous allez me dire, mais moi ce que je fais, ça me va. Mais est-ce que c'est ce que Dieu vous demande ? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Qu'est-ce que Dieu vous demande? J'y reviens. Qu'est-ce que Dieu te demande? Est-ce que tu le sais? Peut-être que tu ne le sais pas. Vous savez, David, à un moment donné, a prié, Seigneur, mais sonde-moi et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Ça peut arriver, ne dramatisons pas non plus. Mais c'est peut-être urgent compte tenu du fait que le Seigneur Jésus va revenir chercher son épouse, celle qui s'est préparée. C'est peut-être urgent de dire, mais Seigneur, où j'en suis au fait de l'huile dans ma lampe? Mes frères et sœurs, vous avez prié? Janson a prié, si je ne me trompe pas, dans le sens où nous voulions entendre la pensée de Dieu. Oui ou non? Donc nous devons nous poser la question, où j'en suis de l'huile, donc de l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie pour pouvoir faire les œuvres que Dieu veut que nous fassions, individuellement et collectivement. Parce que demain, Dieu peut m'appeler à aller acheter du pain. Enfin, je vais acheter du pain. Et dans la boulangerie, est-ce que Dieu peut permettre que je puisse témoigner à quelqu'un? Sincèrement, est-ce que c'est pas ça la vie? Est-ce que le Saint-Esprit, parce que je me suis préparé, pas pour acheter le pain, mais je me suis préparé pour sortir, peut me pousser à prendre un évangile pour le donner à la personne? Et les personnes, vous avez dit, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Est-ce que demain, autant que nous sommes, nous pourrions distribuer à une personne différente un évangile? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Alors mes frères et sœurs, l'assistance du Saint-Esprit, l'Église était en paix, il y avait la persécution, mais ça ne fait rien, elle était en paix. Elle s'accroissait. Parce que les gens, ils avaient du respect. Quelqu'un me disait dernièrement, moi où je suis, je ne peux plus amener quelqu'un. Tellement il y a un manque de respect. Pendant le culte, je ne veux pas critiquer. Et je vous demande pardon si c'est hors sujet. Mais cette personne me disait pendant le culte, les gens sont sur leur tablette. Les gens sont sur leur portable. Les gens parlent. Moi, je crois que l'Église doit être pétrie de respect pour la présence du Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes dans nos églises. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Et nous devons chacun nous dire, voilà, peut-être que ce matin, je recommence l'escalier à la première marche. Vous savez, moi, j'aime ce texte d'Ésaïe 40 quand il est dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Si vous saviez comment c'est rassurant, préparez au désert, ça veut dire dans la configuration la plus tristounette. Mais on peut, même si on est dans le désert, même si ça ne va pas ce matin, on peut dire, oui, je ne suis même pas à la première marche, je suis à la cave, mais je vais remonter, marche après marche, et vous savez que Dieu vous aidera. Vous le savez, il n'est pas possible que le Dieu que nous connaissons n'aide pas celui qui demande de l'aide. Seigneur, aide-moi à remonter, même si je boite un peu, marche après marche, je vais me faire aider, des gens vont m'aider, des gens vont me soutenir, des gens vont me porter. Mais nous marcherons ensemble dans cette affaire sérieuse parce que nous voulons comprendre ce qui attriste le Saint-Esprit. Et pendant les quelques minutes qui me sont octroyées, je voudrais juste nous rappeler qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Par exemple, dans Jean 14, est-ce qu'on pourrait le lire? Je pense que l'ennemi est vraiment beaucoup plus rusé que ce que nous le pensons. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? L'ennemi a des millénaires d'expérience pour nous faire tomber dans ses ruses, les ruses du diable. La Bible en parle. Dans Jean au chapitre 14, au verset 15, 16 et 17, on va lire le verset du 15 au 18. J'aimerais que vous preniez ces textes chez vous et que vous demandiez, que nous demandions au Seigneur de nous éclairer par rapport à cette affaire, où nous en sommes par rapport à ce texte. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle avant de mourir. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous ferai remarquer que l'amour est conjugué à un commandement. Pour nous rappeler, mes frères et sœurs, que d'aimer, c'est d'abord une décision. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour, Jésus le conjugue à un commandement. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est une décision d'aimer. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc Jésus appelle surtout le Saint-Esprit le consolateur. Et on comprend pourquoi. L'Esprit de vérité, regardez bien, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. On a besoin du Seigneur. Sinon, on est des orphelins. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, enfin, moi, j'essaie de commenter le texte de la façon la plus simple qui soit, comme un enfant pourrait le faire. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est orphelin. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. Mes frères et sœurs, si nous sommes mondains, si nous aimons le monde, je sais que nous devons aimer les gens du monde, nous devons aimer les gens comme ils sont. Et même, vous voyez, j'hésite vraiment, même comme je cache pas les choses. J'hésite à vous parler de détente. Parce qu'on a droit à la détente. Mais vous voyez, ça me gêne de le dire presque. Parce que les gens, ils peuvent retenir que ça de la prédication. Monsieur Gou a dit qu'on pouvait se détendre. T'as entendu? Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut se détendre. Et détendons-nous. Mes frères et sœurs, bien sûr qu'on a droit, il y a un temps pour tout. Mais quand nous ne cherchons que la détente, quand nous ne pensons qu'à nous détendre, même d'une façon saine, je crois quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que je sais aussi que dans une activité, le Seigneur peut renouveler nos forces. Parce que celui qui se plonge dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, et qui ne sera pas un auditeur oublié, mais celui-là, il sera heureux dans son activité. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur. Moi, vous savez, Jésus aurait pu l'appeler autrement. Est-ce qu'il aurait pu appeler le Consolateur, le Conseiller aussi, puisqu'il conseille? Je vous enverrai un autre conseiller. C'était à propos, ça aurait été bien. Mais il a pris le qualificatif dont on a vraiment besoin. Parce qu'on a besoin d'être consolés. Tous, même le plus costaud. Même celui qui dit, moi je suis costaud, j'ai pas besoin. Écoute, calme-toi, on a tous besoin de consolation. Oui ou non? On a tous besoin de tendresse, on a tous besoin d'affection, oui ou non? Et c'est vrai que des fois quand on a été blessé, on a tendance à se recroqueviller, ce qui n'est pas l'idéal. Mes frères et sœurs, le monde, l'esprit du monde ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Et nous devrions faire attention. Quand Jésus parle, Monsieur Catéco parlait dimanche dernier de ces terrains, ou ce terrain qu'il est dit, où il est dit que le terrain où il y a des épines, qui étouffe la parole. Il dit, mais les séductions du monde, la séduction des richesses, le monde avec ses séductions, les plaisirs du monde. Vous savez que c'est un des signes, c'est une prophétie terrible que l'apôtre Paul a donné à l'Église, que dans les derniers temps, les chrétiens, il parle aux chrétiens, ils aimeraient le plaisir plus que Dieu. Et là, moi, je veux vraiment être constructif. Et je nous pose vraiment la question. Parce qu'en plus, si Dieu nous a donné certaines choses, en plus, c'est écrit, c'est pour que nous en jouissions. Je ne sais pas, Dieu peut-être vous a donné des faveurs. C'est une grâce, je le sais. Mais il ne faut pas que ces grâces deviennent des pièges. Des chrétiens, c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Ne pensez pas que je veuille le dire pour le dire. Je vous le dis parce que quand un chrétien aime les plaisirs plus que Dieu, il a l'apparence de la piété. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui inspire son serviteur, Paul. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Et nous devrions vraiment être droits devant Dieu ce matin. Vous, moi, et dire, est-ce que vraiment, parce qu'on peut dire j'aime la vérité, mais la vérité, Jésus a dit, mais ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Celui qui construit sur le roc, ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu et qui dit c'est bon, c'est d'accord. Non, c'est celui qui écoute et qui la met en pratique. Quand une femme va dire à Jésus, heureuse les mamelles qui t'ont porté, heureux le sein qui t'ont porté, les mamelles qui t'ont allaité. Cette femme, c'était super ce qu'elle a dit. Franchement, c'était bien. Et Jésus va mettre tout le monde sur, dans la vérité. Heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et je sais, je le sais, au milieu de nous, il y en a beaucoup qui aiment la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et c'est à vous, c'est pas à moi à vous forcer. Là, par contre, ma responsabilité, voyez, elle s'arrête là. Mais c'est de nous éclairer pour savoir si nous aimons écouter un sermon qui est biblique. Mais c'est sûr, quand on aime le Seigneur, on aime la parole. Quand on a compris la vérité, on ne veut que des paroles bibliques. Mais ce n'est pas parce que j'écoute la parole, si biblique soit-elle, que je fais partie de ces vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, je vous donne ce texte, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2,15 à 17. Et le monde passe, je saute. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bien sûr qu'il y a des choses dans le monde qu'on peut aimer. Ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Mais mes frères et sœurs, si vous aimez le monde plus que Jésus-Christ, l'amour de Dieu ne peut pas être en vous. Je vous ai dit dans les annonces, je vous ai dit que nous devrions tous savoir ce que Dieu veut. Vous voyez, on peut parler, j'ai souvent entendu moi cette façon de parler, j'aime pas l'utiliser, mais parce qu'elle n'est pas juste. On parle des fois des chrétiens du dimanche matin. Ça veut dire tout et rien dire en vérité. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église que le dimanche matin. Le problème, c'est que vous sachiez si, oui ou non, vous êtes dans la volonté de Dieu. Parce que c'est ridicule de dire à quelqu'un, il vient que le dimanche matin. C'est ridicule, ça ne tient pas debout. Vous pouvez venir à toutes les réunions, ce n'est pas pour ça que vous êtes plus spirituel que ceux qui viennent que le dimanche matin. Soyons intelligents. Mais si vous aimez le monde, l'amour de Dieu ne peut pas vous imprégner. Le Seigneur, il le sait. Le Seigneur, il le sait. On ne peut pas recevoir l'amour, on l'a lu, que le monde ne peut recevoir. Et vous savez que tout passe par la réception des choses de Dieu. Marie, elle est assise à ses pieds, sa sœur ne la comprend pas, pourtant c'est deux sœurs spirituelles, elles s'aiment, ces sœurs, Jésus habite dans leur maison, c'est les femmes qui ont eu le plus de chance sur la terre, moi je vous le dis. Franchement, ces deux femmes, franchement je le pense. Mais il y a une incompréhension, mais il y en a une qui a besoin de recevoir. Et là, ce texte est clair. Parce que si vous me prenez toutes les fois où il est parlé de recevoir dans la Bible, vous allez comprendre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si j'aime le monde, ben même moi le premier, je peux prêcher et aimer le monde. Ce n'est pas incompatible. Mais si j'aime le monde, l'amour de Dieu ne viendra pas. Et je vais être malheureux, je vais me démener avec mon amour, celui que je vais utiliser pour aimer les frères. Et je vais m'énerver. Et je vais combattre contre la chair et le sang et je vais m'éloigner de Dieu. L'apôtre Jacques l'exprime d'une manière encore plus sévère. Celle-là, on va la lire. Mes frères et sœurs, vous savez, vous croyez que Jésus va revenir? Vous le croyez vraiment? Vous croyez vraiment à l'enlèvement de l'Église? Qu'il y en a qui seront pris et il y en a qui ne seront pas pris. De deux dans un champ, on sera pris, l'autre laissé. De deux dans un lit, on sera pris, l'autre laissé. Mais sûr, si les deux vont bien, les deux seront pris, vous inquiétez pas. Dieu plouffe pas. Quelqu'un me l'a demandé un jour. Mais ça veut dire que Dieu prend un sur deux? Chrétienne convertie. Jacques, regardez bien mes frères, on prend le temps, on le prend, il est 11h05, on a le temps, même si on reste sur ce texte. C'est une épître justement sur cette vie pratique. Presque tous les théologiens ont présenté cette épître comme la vie chrétienne sous son aspect pratique. Jacques chapitre 4. Lisons-le paisiblement, en réalisant ce que Dieu veut dire. Dieu parle et Dieu... Nous, on parle pour rien des fois. Nous, on dit des trucs, ça ne veut rien dire. Mais quand Dieu parle, c'est intelligent. Jacques, chapitre 4. D'où viennent les... Vous voyez des questions, il y en a des questions. Il y en a des questions, moi je vous le dis. Dans l'épître de Jacques, il y en a 22. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous voyez, après avoir envie d'avoir certaines choses, ce n'est pas interdit. Mais convoiter, ça commence à craindre, vous voyez. Vous êtes meurtrier. Alors, ce n'est pas des meurtriers dans le sens où ils ont tué quelqu'un, mais la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est... Voilà, vous voyez, parce que nous, on a la notion du meurtre qui est différente. Mais Dieu, lui, un meurtre, c'est de ne pas aimer son frère. Vous êtes meurtrier, vous êtes envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Puis il se ressaisit, il va plus loin, enfin il se ressaisit. Il précise la pensée, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je fais une parenthèse pour vous dire quand même que Dieu accomplit les désirs de qui ? De ceux qui le craignent. Dieu s'occupe de nos désirs. Il n'y a même pas besoin de les lui exprimer. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur dit. C'est un don, donc ça n'a même pas la peine de demander. Et je peux vous dire qu'en ce sujet-là, je pourrais en donner des témoignages vraiment. Donc il dit, il faut demander. Certains ne demandent pas, ou plutôt ils demandent mal. De toute façon, quand on demande mal et qu'on n'est pas exaucé, on finit par ne plus prier, parce qu'on se dit, ça ne sert à rien. Mais ce n'est peut-être pas la bonne démarche. Alors après, il y a une parole difficile, mais on en a besoin, ce n'est pas un jugement. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? D'où ça vient ça? D'où elle vient cette question? Elle vient de Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde... Alors j'y reviens parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors on ne peut plus aller faire du ski? Est-ce qu'il y a du mal à faire du ski? Bien sûr, si tous les dimanches vous allez faire du ski, je pense que ça va finir par créer un problème. Il n'y a pas de mal à faire du ski. Il n'y a pas de mal à faire certaines choses. On le sait, le Saint-Esprit nous montre quand même ce qui est sain de ce qui n'est pas sain. C'est sûr que si j'achète des skis à 1000 euros et que j'en oublie de faire mon offrande au Seigneur, que je vole Dieu, bien sûr que ça devient problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyons vraiment simples. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne sais pas comment il faut le lire, s'il faut le lire encore plus lentement, s'il faut le lire 10 fois, mais mes frères et sœurs, je vous pose la question, je te pose la question, vous savez que moi je ne tutoie pas, mais je te pose la question, pour vraiment que vous vous sentiez tous, nous sentions tous concernés. Est-ce que tu aimes le monde? Est-ce que tu aimes les choses du monde? Tu l'avoues pas, mais avoue-le au Seigneur. Oui, j'aime le monde. Oui, dès que je me lève, tac, je suis sur mon Facebook. J'ai 386 amis. Et il me faut savoir ce qu'ils ont à me dire. Et je passe une heure sur Facebook. Ce sont mes amis. Je ne les ai jamais vus, mais ce sont mes amis. Alors moi, je n'ai pas trop envie de rire. La façon dont je le dis prête à rire. Mais je pense que nous avons un ami qui réclame, je crois, sa présence dès le matin. Moi, je le crois vraiment, que nous avons un ami. Jésus dit, vous êtes mes amis, vous rendez compte? Avec tout ce qu'on a fait, ils allaient le crucifier. Non mais, franchement, nous allions le crucifier, parce qu'on peut se mettre avec. Et lui, il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il nous le dit. Alors c'est vrai que ces mots adultères que vous êtes, ça peut nous percuter, dire « Oh, mais quand même !» Mais c'est une grâce d'entendre ça. C'est une grâce. Oui, je suis un adultère, je trompe mon Seigneur. Le monde a tellement d'importance dans ma vie que j'en ai plus pour le Seigneur. Il faut que je règle cette affaire. Regardez la suite en plus. Mais regardez la tendresse avec laquelle Dieu nous parle, même si la percussion existe. Mais que ce n'est pas écrit, considérez la sévérité. Et là, bonté. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? combien de chrétiens disent, ouais, j'y comprends rien. Oui, moi, là, les sermons. Mais croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit, tiens, l'esprit E majuscule, c'est le Saint-Esprit, c'est pas votre esprit. Que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce. Non mais je ne sais pas si vous rendez. Là on ne parle pas de grâce, on parle de grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Etc. Au fait, à qui je résiste ? Je résiste au diable, ou quand j'aime le monde, je résiste à Dieu. Mais quand vous aimez le monde, si j'aime le monde, je résiste à Dieu. Vous savez, cette semaine, je ne pensais pas partager ce que je vais vous dire maintenant, mais je sens qu'il me faut le faire. Même si je ne passe pas sur les autres textes. Je lis la Bible en boucle. Et cette semaine, j'étais dans le livre du Lévitique. Et je voudrais qu'on y aille, s'il vous plaît. Parce que je me sens poussé à le faire, vraiment. Je ne pensais pas du tout prendre un texte que j'ai reçu dans la semaine, mais je sais également que quelqu'un a vraiment besoin de comprendre que quand on résiste à Dieu, il va y avoir des conséquences. C'est dans Lévitique 26, je crois. 25. Alors, dans le Lévitique, vous pourrez le lire en entier. Alors, c'est un mot qui m'a percuté. Lévitique 26. Lorsqu'on n'obéit pas, on va prendre le verset 24. Lévitique 26, verset 24. Je sais que c'est un livre que vous n'affectionnez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous résisterai aussi. Voyez? Dans la version d'Arby, il est dit « Je marcherai en opposition avec vous. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai cette fois plus pour vos péchés. » Verset 27. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, je vous résisterai. » Alors, la conclusion au verset 36. Regardez bien, s'il vous plaît. Je vous le demande, s'il vous plaît, de le lire avec moi. S'il vous plaît. Lorsque quelqu'un résiste à Dieu, regardez ce qui est écrit. Je vous assure, j'ai été poussé à chercher la définition de ce mot que nous n'utilisons jamais. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit, non mais regardez bien, le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. J'ai dit pusillanime, bon j'avais compris. Par la suite, moi je ne suis pas un prof de français, mais j'avais compris que c'était un manque de courage. Puis il, ça veut dire petit et anime l'âme, donc une petite âme. Quelqu'un qui résiste à Dieu, vous savez ce que Samuel dit à Saül, que la résistance est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. Alors, je vous dis ça pour que nous prenions conscience que c'est vite, vite fait d'attrister le Saint-Esprit. Le Seigneur me montre quelque chose ? Non. Il va me le remontrer, mais qu'est-ce qui t'écrit ? Que le Saint-Esprit ne contestera pas ? Toujours. Je rendrai pusillanime. Alors j'ai cherché dans les dictionnaires, parce que c'est la seule fois où ce mot se trouve dans la Bible, c'est ce mot que vous avez, pusillanime ? Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront. Regardez bien. Alors j'ai marqué les définitions dans ma Bible. Qui manque de courage ? Alors, la personne pusillanime craint les risques et les responsabilités. Manque de courage, de fermeté et d'audace. Lorsqu'on résiste à Dieu, parce que Dieu nous parle, mais Dieu ne nous oblige pas. Là, je vous parle avec mon cœur, je vous parle, je vais certainement continuer ce sujet si je l'ai à cœur. Mais Comment nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Je résiste, le Saint-Esprit me met ça à cœur. Je sais de quoi je parle, j'ai résisté à Dieu, vous inquiétez pas. J'ai résisté à Dieu, dans des choses que Dieu m'a demandées, en espérant bien que ce serait quelqu'un d'autre qui le ferait. Je sais ce que c'est, et je n'ai pas du tout envie de culpabiliser quelqu'un bêtement. Si c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, parce que le Saint-Esprit est un consolateur, c'est un esprit de vérité. Mais vous le savez, que la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est Jésus qui l'a dit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est la première chose qui se passe. Et dans une église, s'il n'y a pas beaucoup de conviction de péché, soyons honnêtes entièrement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit. Et nous devons donc nous poser la question, mais est-ce que personnellement d'abord, est-ce que je résiste à Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. On peut l'éteindre, hein, comme une flamme qui s'éteint, une bougie qui s'éteint. On peut l'éteindre. N'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, toute animosité, toute clameur disparaissent du milieu de vous. C'est des comportements charnels. Est-ce qu'on peut être charnel parfois? Ben oui, on le sait, on en a assez souffert. C'est pas la peine d'insister. Mais ça commence, et c'est là que je voudrais nous demander de réfléchir dans la semaine si notre vie spirituelle est réelle. Mes frères et sœurs, si nous sommes vrais devant Dieu, vous comprenez bien que là, l'expression « les chrétiens de dimanche matin » a toute sa place. Si je m'intéresse à mon âme que le dimanche matin, là ça ne va pas. Parce que je pense que demain matin ou ce soir, nous pouvons nous occuper de notre âme aussi. Et si je ne prends pas le temps de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors que nous pouvons avoir l'assistance du Saint-Esprit et voir ce que Olivier demandait dans sa prière, la confirmation de sa parole. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois quand même être honnête. C'est parce que quand même c'est écrit, un peu de levain, c'est écrit ou c'est pas écrit? Un peu de péché fait lever toute la pâte. Vous connaissez Ecclésiaste 10, verset 2, les mouches mortes, une mouche dans une jarre, une mouche, tu te dis, une mouche, c'est pas grave, une mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Une mouche dans la vase, dans le vase. Nous avons un Dieu qui est saint, et même si vous ferez remarquer que je n'ai pas parlé de sainteté. Mais mes frères et sœurs, un peu de folie, tiens les vierges folles, un peu de folie, bon c'est pas grave, le maître devrait revenir à telle heure, il est arrivé au milieu de la nuit. Il faut prévoir mes frères et sœurs que ça peut encore durer. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Et je termine. Franchement, mes frères et sœurs, je sais que c'est un travail collectif dans nos réunions de prière. Lorsque nous nous réunissons ensemble, tous, les chrétiens, les responsables, les anciens, les pasteurs, ensemble, pour construire. Mon épouse me disait ce matin dans la voiture, elle me disait souvent, tu as dénoncé des choses. Ça ne sert à rien. Et c'est vrai. Pardon, si je l'ai trop fait. Je vous demande pardon, vraiment. Je crois qu'on est là dans la maison du Seigneur pour construire son œuvre. Il a commencé une œuvre à Golgotha et je peux vous dire qu'il l'achèvera. Avec ou sans nous. Il l'achèvera, c'est sûr. Mais que nous commencions à être honnêtes, parce que quand même que vous le vouliez ou non, chaque fois qu'il y a du fruit dans la Bible, c'est ceux qui écoutent avec un cœur honnête. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de paresse? Alors je sais, je le sais, parce que je souvent me dis, mais monsieur Gros, il ne faut pas pinailler. Et on me le dit souvent. Mais je termine vraiment, et je vous demande d'écouter. Parce que tout ce que je vous ai dit, je l'ai reçu. Dieu a parlé d'un certain homme qui, dans l'Ancien Testament, pour un plat de lentilles, un plat de lundi, s'est privé toute sa vie restante de la grâce de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Et on va le lire pour terminer. Mes frères et sœurs, il y a des petites choses. Un plat de lentilles, c'est bon. Moi, j'aime les lentilles. Non, mais j'ai tellement entendu dans le riz, quelqu'un est capable de me dire à la sortie, est-ce qu'on peut manger des lentilles? Mais bien sûr. Non, mais, si vous saviez tout ce que j'entends, vous diriez, quand même, on le comprend mieux, le pasteur, quand même. Dans Hébreux 12, vous savez, hier, j'étais en prière. Vraiment, j'étais en prière. Hier, je me suis tenu en prière toute la journée. Parce que j'avais besoin de la pensée du Seigneur. Et regardez avec moi ce texte. Hébreux 12, versets 15, 16 et 17. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur Dieu qui inspire son serviteur pour nous montrer qu'un chrétien peut se priver de la grâce de Dieu. Vraiment, c'est grave. Un truc tout minuscule. Un plat de lentilles. Et regardez les conséquences que ça a eu dans la vie de cet homme. Veillez. Voyez, nous devons veiller les uns les autres. C'est un devoir. Vous devez veiller sur moi. Est-ce que vous prenez soin de moi? Est-ce que vous prenez soin de moi? Je me rappelle la première fois où quelqu'un a pris soin de moi dans l'église. Elle vient me voir, mais je vous le dis parce que veiller, c'est ça. On prend soin les uns des autres, des uns des autres. Elle me regarde et me dit, Monsieur Gou, est-ce que vous êtes fatigué? Elle me regarde un petit peu, mais c'est... Parce qu'un pasteur fatigué, ça fatigue l'église. Et je lui ai dit, Madame Delabre, je vous aime. Parce que j'ai vu vraiment qu'elle veillait sur l'église et sur moi. Mes frères et sœurs, veillez. Veillons les uns sur les autres. Appliquons-nous à nous intéresser aux... Moi, je ne peux pas tout faire. Je sais que ce que Dieu me demande, c'est de me tenir devant lui. Vous avez besoin d'un homme qui se tienne devant Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur qui fait n'importe quoi. Veillez à ce que personne, c'est pas juste les responsables, ne se prive de la grâce de Dieu. On peut s'en priver. À ce qu'aucune racine, les racines, vous ne les voyez pas, les racines. Vous voyez que le bout du nez des gens, en vérité. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Parce que quand un va mal, souvent, il esquinte les autres. Excusez-moi l'expression. À ce qu'il n'y ait ni débauché. Alors, virgule. Ni profane. Hein? C'est quoi un profane, en fait? Comme Ésaü. Vous comprenez bien que ça n'a pas été écrit pour critiquer cet homme. Qui, pour un mets, un plat de lentilles, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Un plat de lentilles. Un plat de lentilles. Perdre la bénédiction. Et puis quand Dieu parle d'Ésaü, il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ça ne veut pas dire que Dieu avait de la haine, mais ça veut dire qu'il n'a pas accepté Ésaü. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. La profanation. Mélanger, et ça c'est nous les pasteurs en premier qui sommes en cause. Parce que Dieu dit des pasteurs, dans Ézéchiel 22, mes pasteurs n'ont pas fait connaître la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. C'est notre faute, je le sais. J'en suis conscient et j'en suis assez malheureux. Bien sûr que c'est votre faute aussi, parce que c'est un travail personnel la sainteté. Mais c'est à nous de dire qu'il y a des choses qui sont profanes. Et lorsque un pasteur laisse faire son église en disant « Voilà, mais ça c'est pas important, mais c'est des bricoles, ça c'est un détail, ne pinaille pas, tu vas t'attirer des ennuis. » Mais moi j'ai des ennuis, je veux pas les avoir avec le Seigneur. Des petites choses, une mouche dans le vase, un peu de croiser les mains, bon, alors que c'est important de se reposer, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. Un peu croiser les mains, un peu de paresse, un peu de ci, un peu de là. Une petite femme, regardez Samson qui portait, qui terrassait tout. Une petit bout de femme, et ce n'est pas du mépris pour les femmes. Un petit bout de femme. Sur ses genoux, a détruit son ministère. Une petite femme, alors que lui, il a mis, demandez aux Philistins, vous allez voir. 1000 Philistins, tout seul, il les a tous massacrés. Et un petit bout de femme, demandez à Pierre... Qu'est-ce que c'est qu'il a amené au reniement? Une petite femme. Et mes frères et sœurs, nous sommes là, l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que pour vous c'est important? Je m'arrête parce que je sais la tournée. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons dans l'assemblée où Dieu nous a placés? Si vous êtes là, moi Dieu m'y a placé ici. Je suis là depuis 21 ans. Mais je vous demande de m'aider. Paul disait, priez pour moi. Priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Je nous repose la question. Nous pourrions peut-être même fermer les yeux pendant que je vous pose la question. Parce que vous répondrez au Seigneur, dans votre cœur, je ne veux pas entendre quelque chose. Ça ne sert à rien de dire oui, puis si on ne le fait pas. Mais Dieu va voir comment vous lui répondez. Et que s'il y a quelqu'un dans cette église, réfléchissez avant de répondre, on prend 2 minutes, qui veut vraiment s'occuper de cette affaire avec les pasteurs, les anciens, les responsables, l'assistance du Saint-Esprit, de voir ce que Dieu veut que nous voyions, d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Est-ce que tu peux dire ce matin, mon frère, au Seigneur, oui, je sais que je fais les œuvres que tu m'as préparées d'avance. Si vous pouvez le faire, merci Seigneur. Et pourquoi ne demanderais pas de l'aide au Seigneur ? Amen.